Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Elle, c'est son premier roman. Lui est un petit peu plus chevronné. Elle, elle fait parler deux de ses personnages. Lui en fait parler plusieurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rose Geoffroy Turowski pour son roman L'ami du silence, publié aux éditions du Menhir, et François-Xavier Simon pour son roman L'or vert, publié en auto-édition. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Marathon, l'ultime course. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Rose, L'ami du silence est donc votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ?
J'ai toujours aimé écrire depuis ma plus tendre enfance. Depuis mes 6 ans, j'ai commencé à faire des petites bandes dessinées avec des animaux qui parlaient. Et j'ai toujours été très intéressée par l'histoire, et en particulier cette période du Moyen-Âge et l'époque de Clovis, donc là, l'époque dans laquelle se situe mon roman.
D'accord. Alors pourquoi cette période plutôt qu'une autre ?
Parce que c'est une période que je trouve assez fascinante du fait qu'on a très peu de sources historiques, oui. Très peu de sources. On a Chrétien de Troyes au niveau littéraire, quelques archives. Et du coup, c'est à la fois un challenge pour rester proche de cette réalité historique. Et en même temps, ça donne libre cours à la créativité en tant qu'écrivain, parce que ça veut dire qu'on peut broder aussi un petit peu pour remplir les trous qui n'ont pas été... qu'on ne peut pas forcément trouver sur papier.
Bien sûr. Mais ce n'est pas un peu compliqué d'essayer de combler les trous, justement, puis de rester collé à ce qu'on sait ?
Ce n'est pas toujours évident, non ? D'où la solution que j'ai trouvée d'avoir ces deux personnages qui interagissent et qui racontent chacun de leur côté leur histoire.
Mm-hmm. C'est bien. Alors, donc, ça se situe en France au VIe siècle après Jésus-Christ, donc en pleine période mérovingienne. Alors avant de parler un peu du livre, est-ce que pour nos auditeurs, vous voudriez bien faire un petit récapitulatif de la situation en France à cette époque ? On va partir de Clovis en fait. Hein.
Oui, donc Clovis qui est officiellement le premier roi de France. Mmh. Et donc c'est une période qui intervient à une croisée entre la période gallo-romaine, donc la fin de l'Empire romain, les invasions des différents peuples, les Francs, les Visigoths, les Burgondes, tous ces peuples germaniques qui sont venus envahir la France. Et toute cette présence de peuples celtiques qui étaient encore bien implantés dans la France de cette époque.
D'accord. Donc Clovis a eu combien d'enfants ?
5 enfants.
5 enfants. Vous pouvez les citer ou c'est trop difficile ?
Alors il y a Théodoric,
oui.
Clodomir,
oui.
Childebert,
oui.
Clotaire et Clotilde.
D'accord. Et nous, on va s'intéresser à un petit-fils de Clovis.
Oui, Clodoald, qui est donc le fils le plus jeune de Clodomir.
D'accord. Clodomir, donc, voilà.
Le deuxième fils de Clovis.
Voilà. Donc, on est dans une période de l'histoire où Clovis est mort, bien sûr.
Oui.
Le royaume a été partagé entre les enfants.
C'est ça, oui, comme le voulait la tradition chez les Francs. Chaque fils avait droit à sa part égale du royaume.
Mm-hmm. Mais les frères n'étaient pas tous d'accord. Il y en a qui voulaient récupérer la part des autres, en fait, hein.
Oui, il y avait beaucoup de luttes au sein des familles pour ce qui est du pouvoir. Chacun voulait s'approprier la part des autres.
Oui.
Et il y a aussi, il faut remettre aussi dans le contexte le fait que le christianisme venait tout juste de s'implanter et qui ne faisait pas forcément non plus encore l'unanimité chez tout le monde. Il y avait encore une forte population païenne, druidique.
Et donc, Clodoac, c'est un personnage réel.
C'est ça, oui. C'est celui qui a fondé la ville de Saint-Cloud, près de Paris.
Voilà. Donc tout le monde connaît Saint-Cloud, mais personne ne connaît Clodoac, en fait.
Oui.
Alors, vous racontez-nous L'ami du silence. C'est donc un roman basé sur des faits réels.
C'est ça, oui. Donc sur l'histoire de Clodoald qui a réellement existé et qui a survécu à l'assassinat de ses frères. Parce que donc, comme on disait avant, il y avait beaucoup de luttes de pouvoir à cette époque. Et son père est mort à la guerre. Clodomir, donc, et ses oncles ont voulu s'approprier le royaume de leur frère défunt et ont trouvé donc comme solution la plus facile de faire disparaître les 3 héritiers.
Mmh.
Et il se trouve que ce plus jeune, donc Clodoald, qui avait 2 ans à l'époque, a pu être sauvé. Alors, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs théories possibles. Et donc, c'est ça qui m'a intrigué dès le départ dans cette histoire, de savoir comment un enfant aussi petit a pu survivre et qu'est-ce qu'il est devenu par la suite.
Mmh.
Et donc, on va suivre son parcours d'abord dans un monastère où il a été caché pour sa survie, au milieu des moines, sans savoir qui il était. Et à son 16e anniversaire, il a découvert sa véritable identité. Et donc, on se lance dans un parcours qui est à la fois des sujets très d'actualité encore aujourd'hui, c'est-à-dire la lutte par rapport au pouvoir, comment se situe soi par rapport au pouvoir, la recherche de soi-même, que ce soit spirituel ou personnel, et au niveau social aussi, se situer dans la société, et bien sûr, une grande histoire d'amitié qui est un thème qui est toujours très fort, surtout dans la période actuelle, je trouve.
Oui, c'est vrai. Alors donc, il est dans un monastère.
Oui.
Et puis arrive un soldat qui a été blessé, qui est donc recueilli dans ce monastère.
C'est ça, oui.
Otaric, hein, c'est ça?
Otaric, oui.
Oui. Et alors là, commence une belle histoire d'amitié entre ces deux hommes que tout sépare, enfin, ces hommes. Clodoac, il est encore jeune quand...
Oui, c'est un adolescent encore.
Oui.
Et
oui.
Effectivement, deux cultures très différentes. Donc, Clodoald qui a vécu toujours dans ce monastère et qui est chrétien donc, dans l'âme. Et ce soldat qui est de culture plutôt druidique et d'origine celtique, germanique et celtique.
Et qui, lui, a connu un peu la misère, a connu la guerre, a connu les violences, a connu tout ce que n'a pas connu Clodoac, en fait.
Oui, qui a vécu la vie, la vraie vie, finalement, alors que Clodoald n'a connu que les quatre murs dans lesquels il a grandi.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, c'est donc une très très belle histoire d'amitié qui va perdurer pendant des années.
C'est ça, oui. Ça va jusqu'à la mort donc, de Clodoald et même encore un petit peu après.
C'est vrai. Alors, Clodoald, qui ne connaît que les quatre murs de son couvent, rêve de liberté. Comme lui, vous pensez que quelques jours d'une vie libre vaut mieux qu'une existence entière enfermée entre quatre murs?
Je pense que la liberté est importante, oui, bien sûr. Mais après, je nuancerai un petit peu parce que je pense que tout le monde a besoin aussi d'une certaine sécurité.
Oui.
Et là, en l'occurrence, ce personnage qui a tout le temps vécu enfermé, le fait de se retrouver dans cette liberté et d'être ivre de liberté, lui fait momentanément perdre un petit peu les pédales et de plus trop savoir qui il est, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie.
Oui.
Qu'on a tous des moments dans notre vie où on se retrouve dans ce genre de situation.
Oui. Mais il veut quand même rencontrer sa famille. C'est important pour lui.
Oui, la recherche des origines pour comprendre ce qui s'est passé. Et notamment par sa grand-mère qui est encore vivante, donc Clotilde, l'épouse de Clovis, qui elle aussi était rentrée dans un couvent. Et donc dans ma version à moi, c'est elle qui a sauvé le plus petit, donc qui a sauvé Clodoald et qui l'a caché dans ce monastère. Donc c'est pour ça, quand il l'apprend, qu'il va à sa rencontre à elle, afin de savoir ce qui s'est passé et de faire un petit peu le point sur qui il est.
Et donc, il va quand même, il monte à Paris quand même, il va à la cour.
Oui.
Pour rencontrer donc ses
oncles aussi,
oui.
Sans savoir à l'époque que c'était donc ceux qui ont assassiné ses frères.
Voilà. Et il se laisse un instant impressionné par le faste, par la bonne chair, les femmes, enfin, etc. À un moment donné.
Oui, il découvre un peu tout ça. Donc
oui,
il est
c'est ça.
Un petit peu émoustillé, si je peux dire. Et oui, de passer de cette vie austère à cette vie de palais.
Oui.
C'est un contraste vraiment, c'est du simple au double.
Ben oui, c'est sûr. Mais on sent une vraie tendresse pour vos deux personnages, que ce soit Clodoald ou Tariq.
Oui.
On sent que vous les aimez, ces personnages.
Oui, j'ai essayé de faire des personnages qui sont à la fois très opposés et puis très similaires. Et de voir un petit peu leur évolution à tous les deux en tant qu'hommes, parce qu'au contact l'un de l'autre, ils changent quand même pas mal.
Oui, c'est sûr.
Comme chacun change à l'occasion d'une rencontre.
Oui, bien sûr. Alors, il y a quand même pas mal de détails en ce qui concerne la façon dont on vivait à l'époque. Vous vous êtes documenté comment?
À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais encore au lycée. Donc, c'était dans les années 2004-2005. Donc, Internet existait déjà, mais ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Donc, j'ai pu chercher certaines choses sur Internet. Et je me suis déplacée dans la ville de Saint-Cloud, consulter les archives.
Oui.
Et m'imprégner aussi un peu des lieux où il avait vécu.
Ah oui, c'est... C'est poussé un peu loin, c'est bien. Ça a dû vous prendre du temps quand même pour construire ce roman.
Oui, en tout, ça m'a pris une dizaine d'années quasiment, oui.
Ah oui, quand même.
Avec des pauses, parce que comme j'étais lycéenne, évidemment, le bac était plus important que l'écriture.
Oui, oui, bien sûr. Vous voulez bien nous lire un passage de votre roman?
Oui, bien sûr.
C'est moi qui ai sélectionné le passage, je dois dire.
J'étais allongée depuis deux bonnes heures, sans parvenir à fermer l'œil. Je pensais sans arrêt à des milliers de choses à la fois. Des questions me tracassaient. J'avais besoin de parler. À mon retour de vêpres, Otari qui était déjà endormi et n'avait pas bougé d'un orteil. Quelques minutes plus tôt, il s'était retourné, avait changé de position, puis plus rien. Ce cycle recommença plusieurs fois et je n'étais pas sûre qu'il soit réveillé. « Ota, tu dors ?»« À ton avis, est-ce que j'ai l'air d'être en train de traire les vaches ?» Je pensais à mon nom. À ma naissance, comme le veut la coutume, mes parents ont consulté les augures qui m'ont prédit un glorieux avenir. D'après eux, je devais devenir un grand roi. J'étais censée avoir une plus grande destinée que mes deux frères, voilà pourquoi mes parents m'ont donné le nom de Clodoald. Otaric renifla bruyamment dans le noir. Quelques battements de cœur plus tard, temps nécessaire pour comprendre ce que je venais de lui dire, je l'entendis répondre. Cet augure-là s'est visiblement un peu emberlificoté dans ses prédictions. Parfois, je me demande si Dieu ne m'a pas puni en me faisant moine. Et de quoi t'aurait-il puni ? Mes parents ont consulté des augures païennes. Ridicule, on a toujours consulté des augures lors de la naissance d'un fils de roi. Cela fait partie de nos traditions et les traditions subsistent. Ce n'est pas parce que ton grand-père a décidé du jour au lendemain de se convertir, lui et sa famille, que des traditions vieilles comme le monde vont être abandonnées. Ce n'est pas si simple. La décision de Clovis est venue après un long cheminement. Il aimait beaucoup ma grand-mère et elle a su lui donner la foi. Mais c'était avant tout une réflexion personnelle. À Tolbiac, il a eu une révélation. Dieu en personne est intervenu pour lui donner la victoire. Tu parles. Sa conversion n'était rien d'autre qu'un calcul politique. « Tu n'en sais rien, m'exclamai-je. Moi, je suis de son sang. »« Et alors, tu n'en sais pas plus que moi ?» Peu importe ce qu'il pouvait penser. Nous n'avions rien pour prouver nos théories, ni l'un, ni l'autre. Mais Clovis était mon grand-père. Je l'avais toujours admiré pour avoir apporté la vraie religion à son peuple, et je refusais de discuter de lui avec quelqu'un à qui toutes les dimensions de ses actes échappent. Et puis, se convertir par calcul politique, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut se convertir que parce qu'on a la foi. Je décidai de changer de sujet, rompant par la même occasion un silence devenu pesant. Tu y crois, toi, aux augures ? Bien sûr. Dans les campagnes, on consulte souvent les devins pour savoir quel jour moissonner, quelles céréales planter, ou si les récoltes seront bonnes. Toutefois, il y a devins et devins. Certains sont de vrais charlatans. Je me souviens d'un été où, selon eux, les récoltes devaient être abondantes, et à la place, on a eu une belle année de famine. Ton père est peut-être tombé sur l'un d'eux. Je n'avais pas pensé à cette éventualité. Évidemment, cela expliquerait tout.
Merci Rose. Alors la vue du silence est sortie depuis un certain temps, comme c'est un roman historique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je voudrais vous demander si, pourquoi vous n'avez pas persévéré dans l'écriture ?
J'ai d'autres projets actuellement en cours.
Ah, ben c'est bien. Roman historique toujours ?
Oui, entre autres, un roman historique qui nous plongera cette fois dans l'Irlande médiévale.
Oui.
Donc oui, un héros irlandais encore plus loin dans l'histoire, au 4e siècle.
D'accord.
Et j'ai un autre projet un peu plus contemporain sur un quadragénaire divorcé qui doit gérer à la fois un fils adolescent compliqué et un groupe de rock dont il est le garde du corps.
Ah oui, là, on fait quand même le grand écart. Oui, là, c'est tout à fait.
Il est peut-être irlandais aussi.
Peut-être, oui.
Merci Rose. Alors avant d'aborder le roman de François-Xavier Simon, nous allons écouter John Bullitt nous lire sa nouvelle « Marathon, l'ultime course ». À toi John.
La route est encore longue, mais mes sandales de cuir me font voler comme un aigle sur le chemin qui conduit vers Athènes. Rythmant ma course folle, le fracas de mes armes donne la cadence. Mon large bouclier de bois frappe et s'entrechoque régulièrement avec ma lance, que je n'ai pas voulu laisser en garde à des inconnus sur le champ de bataille. Ah non, pour l'avoir déjà égaré une fois cette lance, j'ai réalisé que 10 drachmes ôtées sur ma solde ne valaient pas ce moment de négligence. En 3 mois d'incorporation et de formation dans la phalange commandée par Polyzélos, j'ai pu malheureusement mesurer le taux de confiance exercé entre les soldats recrutés dans les bouges et les tavernes de tout le pays. Aucune confiance. Ici, tout se voit, tout se vole et se revend. Seul Démodocos m'a témoigné dès le début un peu d'empathie et d'amitié. L'amitié à moi, le jeune Athénien de la plèbe, venu s'engager dans le seul but de se constituer une dot suffisante pour épouser la belle Artemisia. Une traînée de poussière s'élève derrière moi, m'éloignant un peu plus à chaque enjambée du camp des Athéniens où je suis parti. Celui-ci résonnait encore il y a moins d'une heure des cris de victoire, hurlés par 10 000 poitrines. Et les boucliers des guerriers grecs, levés au-dessus de leur tête en signe de victoire, frappés en cadence par leurs glaives de bronze, en un rythme sourd et régulier accompagnaient la fuite honteuse des soldats adverses sur leur navire barbare. La mer est à présent recouverte des cadavres ensanglantés de nos ennemis jurés, les Perses. Et 7 de leurs bateaux brûlent dans la crique par laquelle ils comptaient débarquer. Mais comment avons-nous pu les vaincre en seulement 5 jours, nous autres, les 10 000 Athéniens et le piètre renfort des 1 000 guerriers platéens, alors qu'en face, se trouvait cette multitude de soldats perses, 50 000, voire peut-être 60 000, guidés de la voix par leurs commandants, Artaphène et Dartis. Mais encore à cet instant, je ne le conçois et ne le crois toujours pas. Et pourtant, c'est un fait. Installés depuis 4 jours sur le pourtour élevé de la plage de Marathon, nos hommes ont repoussé durant tout ce temps de nombreuses vagues d'assaut des barbares. Notre formation en écailles de tortue, avec nos larges boucliers et nos longues lances, a fait merveille. Oui, toutes leurs tentatives d'atteindre les sommets de la plage furent vaines, se terminèrent par des monceaux de cadavres de nos ennemis qui les empêchaient même d'accéder à certains endroits, tant leur nombre était grand au sol. Par-dessus nos têtes, et sans discontinuer, volaient des milliers de flèches de nos archers qui venaient obscurcir le soleil et s'abattaient sur nos ennemis. Les nombreuses pierres sagement ramassées et entassées par nos guerriers juste derrière nous étaient, elles aussi, projetées avec force par nos frontes vers eux et firent de nombreuses victimes chez nos adversaires. Enfin, au matin, au milieu du matin du 5e jour, ils décidèrent de battre en retraite. Mais dans une désorganisation totale, car s'ils étaient nombreux, ils venaient pour la plupart de pays différents, rassemblés de force par les Perses, et ne constituant pas une vraie nation ou un peuple comme nous, mais une multitude de pays soumis à ceux-ci. Alors quand ils se retiraient en désordre, nos flèches furent enflammées et visèrent cette fois-ci leur navire, qui s'était approché imprudemment. 7 de leurs bateaux, donc remplis de guerriers, s'embrasèrent alors sur la mer. La plupart de leurs hommes, ne sachant pas ou peu nager et de surcroît surchargés par leurs armes, fit que beaucoup se noyèrent. Nous achevâmes les survivants sur la plage. À midi, la victoire était acquise. Polyzélos, le stratège en chef de notre armée avec Milliade le Jeune, pourra en tirer toute la gloire qu'il mérite, car il a su nous mener à cette victoire. De même, il sera aussi très satisfait si je réussis à atteindre avant ce soir l'aéropage des sages et des anciens du conseil pour leur annoncer la grande nouvelle. Athènes est sauvée. Nos ennemis sont défaits à Marathon. C'est une grande victoire pour notre peuple. Et pour moi, ce sera surtout les 2 000 drachmes que m'a promis Polyzélos si j'arrive jusque là-bas. Suffisamment d'argent pour briguer dès lors auprès de son père le cœur d'Artemisia, que je sais déjà ouvert à moi secrètement. Je suis exténué, mais il me faut tenir, il le faut, tenir, allonger la foulée, plus vite, encore plus vite, toujours plus vite et plus loin, même si je sens la fatigue m'envahir. Je le dois à mon amour, à Démodocos, et pour l'honneur de ma patrie. Le soleil me brûle les lèvres et la peau, mais je cours toujours, inlassablement. J'ai déjà couru d'autres fois sur quasiment cette distance, mais sans mon casque, sans mon glaive, sans mon bouclier, sans la fatigue du combat et sans le soleil torride et avec de l'eau. Aujourd'hui, la gorgée d'hydromel que l'on m'a offerte à mon départ est déjà bien loin. Le bruit régulier de mes sandales de cuir résonne tantôt dans la caillasse, tantôt plus feutré sur le sable. Quelle distance ai-je parcouru? Je ne le sais. Démodocos, le réputé meilleur coureur de toute notre phalange, m'avait pris un jour à part et m'avait déclaré. « Je t'ai observé, jeune Philippides. Tu cours vite et sans effort, de façon naturelle. Je voudrais t'affronter dans une course sur la longueur d'un stade pour voir si tu cours aussi vite que moi. Qu'en dis-tu? Acceptes-tu le défi ?» Bon, après 8 premiers jours d'exercice militaire exténuant, j'avais rencontré encore aucune aide, aucun soutien, aucun contact pour m'intégrer et j'étais découragé. Aussi, cette proposition venue d'un guerrier reconnu me sembla-t-elle intéressante, même en cas de défaite. Noble Démodocos, venant d'un combattant tel que toi, la proposition ne peut être refusée et m'honore. C'est avec joie que j'accepte ton défi. C'est bien, jeune Philippides. Sois alors présent demain matin, au lever du soleil, sur la grande plage que nous devons défendre. Nous tracerons les lignes de départ et d'arrivée, et nous nous élancerons ensuite au signal. Tiens-toi prêt. Je serai là, à demain. Je m'étais engagé dans ce défi avec toute la fougue de ma jeunesse et surtout toute mon innocence. En y réfléchissant, je concluais que j'étais bien fou d'avoir accepté. Il allait me battre, m'humilier, je serais la risée de toute l'armée grecque. De plus, je ne savais même pas ce que représentait un stade, la distance qu'il m'avait proposée. La nuit fut courte, agitée, mais au lever du soleil, je me présentais sur la plage. Celle-ci était bondée de soldats, qui voulaient tous voir le vieux routier dévorer le jeune néophyte. « J'ai tracé notre course, jeune Philippides. C'est une course en rond. C'est ça, le stade. Es-tu prêt ?»« Je le suis. » Mais laisse-moi auparavant te remercier de m'avoir défié, quel qu'en soit le résultat. Je te remercie, assez parlé, qu'on donne le signal. 1, 2, 3, allez ! Sous les hurrahs des autres soldats, nous bondîmes tous deux, nos épaules et nos coudes se heurtant avec violence. Tels des tigres, nous lancions la foudre et le feu. Nos genres devinrent les soufflets de la forge de Vulcain. L'ardeur du dieu Mars nous envahit pour dicter sa loi. Penchés l'un contre l'autre, dans cette curieuse piste ronde, nos souffles résonnaient à l'identique. Des gerbes de sable blond giclaient de tous côtés. Sous les cris de la foule, nous approchions de la ligne d'arrivée. Oh, par Zeus, je le sens faiblir. La victoire est à portée de main. Je suis devant, de très peu, mais devant. Quand sur la ligne, celui-ci casse son corps et me rejoint. Égalité, égalité totale, déclarent les deux juges. Ah, cette journée est bien loin à présent. Et Démodocos s'en est allé rejoindre le dieu Thanatos maintenant. Il n'est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui. Blessé mortellement ce matin, en combattant à mes côtés, j'ai réussi à le tirer de la mêlée, à le sauver, mais provisoirement, car il n'a survécu que quelques minutes. Le temps de nous serrer dans les bras, lui déclarer qu'il fut mon seul ami ici-bas. Le temps pour lui, dans un dernier souffle, de me donner ses sandales de cuir que je porte à présent. J'aperçois maintenant le soleil qui progressivement décline vers l'horizon et sur ma route, quelques paysans qui reviennent des champs et regardent avec interrogation ce soldat en sueur courant vers Athènes. Il semble bien pressé ce guerrier, pense-t-il, mais surtout mal en point car depuis quelques minutes je boite, j'ai ralenti mon allure, notablement. Ma jambe droite me fait terriblement souffrir, ainsi que mon bras gauche qui est devenu dur et douloureux. Une soif terrible m'envahit, ainsi qu'une sensation de malaise. Une sensation pénible que je ne connais pas. Je perçois des étoiles dans mon champ de vision, j'ai la tête qui tourne. Soudain, au détour d'un chemin, je distingue Athènes au loin. Les forces me reviennent. Dans quelques minutes, je serai au bout de mon calvaire. Une rasade d'eau bien fraîche m'attendra, ainsi que la joie de l'annonce de cette grande nouvelle. Je serai porté en triomphe. Cours, Philippides, cours! Pour l'amour de ta belle, pour Démodocos, le cri de victoire des 10 000 soldats, les 10 000 soldats grecs victorieux, cours ! Me voilà dans les faubourgs de la ville, chamboulant, zigzagant. Les gardes de la ville m'ont repéré, viennent m'aider, me soutenir, me conduire jusqu'à l'aéropage. J'y suis. Les sages et les anciens sont en plein conseil. J'ouvre la porte, interrompant leur colloque. Je balbutie. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Les sages me font répéter, je m'entends bredouiller. Oui, nous avons gagné un marathon. Contre les Perses, nous avons... Ils me portent en triomphe sur leurs bras. La tête me tourne, je n'arrive plus à respirer, je défaille. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu belle Artemisia. Je m'éteins comme une bougie qu'on souffle dans la nuit. Je m'éteins en pensant à toi. Mais sache que pour l'histoire et à tout jamais... Je resterai désormais dans les mémoires des hommes, le premier coureur de marathon.
Merci John. Bon, et la pause musicale qui va venir, beau papa de Vianney, va nous changer un peu la vie.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas, même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, adopté en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles, du moment qu'on s'aime. Et si la verse me touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse me touche, toi et moi, prends ma main, dis prends-la.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Rose Geoffroy-Turowski, venue nous présenter son roman L'Ami du silence, publié aux éditions du Menhir, et François-Xavier Simon, son roman L'Heure Vert, publié en auto-édition. Alors, c'est vous, François-Xavier, qui avez choisi cette chanson de Vianney. Alors, pourquoi l'aimez-vous?
Eh bien, écoutez, c'est en rapport aussi avec le livre, puisque dans le livre, il y a quand même une réflexion, même si c'est un thriller, autour de la place de la parentalité, du père, les liens du sang, les liens qui ne sont pas du sang, qui peuvent se construire. Et donc, du coup, j'avais envie de... Je trouvais que c'était plutôt un clin d'œil sympathique, puisque dans le roman, on sent que les liens du sang ne font pas tout, en fait.
Non, c'est sûr. Alors, François-Xavier, votre roman L'Or Vert a connu quelques péripéties d'édition, racontez-nous.
Oui, tout à fait, oui, puisque j'avais déjà une maison d'édition, qui était les éditions Sidney Laurent, qui malheureusement, avec lesquelles je travaillais, c'était mon deuxième roman avec eux, et au moment de sortir le livre, il était en phase d'impression, malheureusement, ils ont déposé le bilan et ils ont été passés en liquidation. Et donc, du coup, plus possible pour eux de publier mon roman. J'ai donc récupéré un petit peu tous les fichiers qu'on avait pu construire ensemble et avec l'aide de la personne qui a fait la couverture, qui m'a aidé à la couverture, j'ai transféré sur de l'auto-édition puisque je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je retrouve une maison d'édition qui risque d'être compliquée ou est-ce que je me lance tout seul? Et donc j'ai fait ce choix de tenter l'aventure un peu tout seul. C'est une aventure aussi, oui, tout à fait.
Et c'est agréable quand même?
C'est agréable parce qu'on maîtrise tout, c'est clair. Mmh. C'est quand même là où on se dit, ah oui, il y a quand même du boulot derrière. Je me rappelle, on a fait beaucoup d'allers-retours par mail avec le graphiste parce qu'il faut adapter les bonnes tailles, les bonnes cotes, les bonnes. Voilà, il faut reprendre à la. En fait, c'est tout le travail de mise en page des maisons d'édition. On sent quand même qu'effectivement, il y a beaucoup de travail derrière. Et j'ai découvert beaucoup de choses, hein, du coup. Je pense qu'il faut aussi, c'est un métier dans lequel il faut quand même se faire un peu aider, parce que, voilà, je parle du graphisme, mais effectivement, c'est quand même un domaine que je ne connais pas du tout et pour lequel j'ai vraiment eu besoin d'être accompagné, oui, tout à fait.
Mm. Alors, parlez-nous de L'Envers.
Alors, L'Envers, c'est un roman thriller, hein, qui a comme idée, en fait, du réveil d'un homme qui est en vacances. Il part en vacances et puis avec sa famille, donc il a une femme et une fille, et puis il part se baigner, il est un peu fatigué, il se repose sur la plage, et au moment où il se réveille, ben, sa femme et sa fille ont disparu. Bon, au début il s'inquiète pas trop, pensant qu'elles sont reparties à la maison de location, d'autant qu'il est tard. Et puis en fait, quand il arrive à la maison de location, il se rend compte qu'il n'y a plus personne du tout, et que la voiture n'est plus là, que la maison a été vidée, et il commence à se dire, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il oscille entre inquiétude quand même, et puis on commence à découvrir un petit peu les méandres de son passé, qui font qu'il se dit, bah, peut-être que quelque part j'ai ma part de responsabilité dans ce départ. Voilà.
Mmh. Alors, si Rose Geoffroy Turovski a dressé le portrait de deux hommes que l'on peut facilement aimer, François-Xavier, vous n'êtes pas très tendre avec la gente masculine. Votre Benoît a une vraie traite à claque. Et je suis charitable.
Oui, tout à fait. C'est une tête à claque. Après, ce qui m'intéressait aussi dans le personnage de Benoît, qui est donc ce personnage tête à claque, c'est essayer de comprendre un peu comment les choses se font. Est-ce qu'on devient une tête à claque? Est-ce qu'on est tête à claque? Je pense que lui, l'idée, c'était de réfléchir vraiment à comment il a pu se dire à un moment donné, comment est-ce qu'on peut en arriver un peu à écraser les autres? Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on le fait, ce choix? Ou est-ce qu'en fait, les choses arrivent? Et puis, lui, un poste à très grosse responsabilité. Donc, est-ce qu'il est monté, il s'est rendu compte que quelque part, il écrasait les autres? Ou au contraire, il a fait ça de façon très naturelle en se disant, la vie, c'est comme ça, il faut avancer. Il ne s'est jamais vraiment posé la question. Voilà, les relations avec son environnement sont toutes basées autour de cette réflexion. Moi, j'avance. Les autres, je ne sais pas, je ne m'inquiète pas trop d'eux. Et au final, on se rend compte que tout ça a quand même un impact au final.
Ah oui, ça, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours un peu du mal à comprendre comment on peut être aussi suffisant et manipulateur.
Eh bien, voilà. C'est une bonne question. C'est vraiment l'idée du roman. C'est-à-dire de se dire, mon personnage avait vraiment envie de quelqu'un qui sorte un petit peu du cadre. Alors, j'ai comme d'habitude un peu forcé un peu le trait pour qu'on aille chercher quelqu'un qui se dise, moi, je fais, je fais du mal. Pourquoi dans sa relation avec son épouse ou avec sa fille même, il se rend presque pas compte qu'il dépasse grandement les bornes. Relation professionnelle, c'est la même chose. Et donc, toute l'idée de me dire, à un moment donné, dans sa recherche, de se dire, mais est-ce que je suis un monstre? Est-ce que je suis devenu un paria, quelqu'un qui est vraiment imbuvable? Ou au final, c'est la vie, puis c'est eux qui, quelque part, sont un peu trop gentils et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont se faire bouffer s'ils n'avancent pas. Donc autant que ce soit moi qui mange, quoi. Hein, c'est un peu ça l'état d'esprit.
Mmh. Et puis, son attitude avec les femmes est plutôt lamentable, quand même.
Oui, alors après, j'ai effectivement... Oui,
vous avez mis une bonne couche, quand même.
J'en ai mis une bonne couche. Après, honnêtement, maintenant, j'ai peut-être un peu plus d'expérience dans la vie, mais j'ai aussi... je base toujours un peu mes romans en essayant quand même de le rendre un poil de réalité dans l'esprit, évidemment, lui, les volages, et je pense que je suis malheureusement pas le seul, et toute l'idée, c'est un peu ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on devient volage, pourquoi est-ce qu'un jour on se dit tiens, je vais tromper ma femme, pourquoi est-ce qu'un jour on commence à prendre une maîtresse, deux, trois, enfin voilà, et comment on cache cette espèce de double vie qui pour lui n'a rien de, voilà, il considère qu'il a des besoins, sa femme ça le suffit pas, il l'aime quand même, il est fou amoureux de sa femme, elle n'assume, de son point de vue, elle n'assume pas 100% son rôle, et donc du coup, il se trouve en droit, voilà, un peu, c'est la réflexion autour de tout ce qui s'est passé aussi de MeToo, hein, la place des hommes, le rôle un peu qu'on a été qu'on a supporté, enfin qu'on a supporté avec sans presque s'en rendre compte. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions autour de cette thématique-là. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas, évidemment beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas. Donc, ça m'a inspiré aussi ce personnage d'un peu décalé par rapport à l'évolution de l'histoire d'aujourd'hui.
Mmh. Alors, il y a Timoshenko, né quand même pas mal non plus lui, mais dans un autre genre.
Oui. Alors là, on est voilà, c'est toute la difficulté de mon roman, c'est que effectivement, j'avais besoin d'un univers un petit peu particulier. Alors donc, oui. Sans dévoyer complètement l'histoire, non, effectivement, j'ai été quelque peu embêté par les plans de Poutine hein, en l'occurrence, qui m'ont obligé un petit peu de changer la date de mon roman puisque j'étais un peu coincé par
ben oui,
ces initiatives, puisque en fait dans le roman, bah, on se rend compte que voilà. Plus Benoît va commencer à creuser, et puis plus on va avancer avec lui dans cette aventure, et plus on va se rendre compte que derrière la recherche de sa femme, il se rend compte que bah, finalement il connaît pas si bien que ça son épouse, et qu'elle aussi a beaucoup de secrets, et effectivement des secrets qui sont compliqués à gérer et à appréhender pour lui, puis il met la main dans un engrenage qui finit par le dépasser.
Oui, c'est sûr. Alors, heureusement, il y a Tristan Moulin qui sauve l'honneur masculin. Lui, il est charmant. Ouais, bah, il faut quand même en parler.
Il faut toujours
François...
un héros, un anti-héros. Sinon... Oui, alors voilà, c'est un peu, c'est aussi l'idée. Hein. Après, j'ai eu, moi, la chance de connaître ce rôle de beau-père. Donc, du coup, ça m'a un petit peu inspiré. La réflexion, la façon dont on crée la relation avec nos enfants qui ne sont pas vraiment nos enfants de sang. Et du coup, j'avais envie un petit peu de remettre un peu, voilà, on entend beaucoup de gens aujourd'hui, des relations avec les parents qui peuvent être extrêmement compliquées, avec des parents qui peuvent de temps en temps devenir extrêmement violents, voilà, et avec des beaux-parents aussi, ça peut arriver, mais je trouve que, un petit peu comme dans la chanson de Vianney, quand on rencontre une femme avec un enfant, on a aussi l'enfant qui vient avec, et c'est aussi quelque part de notre devoir de faire en sorte que ça se passe bien, et quand on fait cet effort, je trouve que les récompenses sont magiques. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais traduire dans le personnage de Tristan, qui est un peu un rêveur, un peu en dehors de la société, mais qui arrive à créer une relation quand même avec la jeune fille qui devient sa presque belle-fille. Enfin, voilà, ça devient un peu...
Alors, en revanche, vos personnages féminins sont très attachants. Ce sont surtout des femmes de caractère, presque toutes. Des femmes fortes. Vous aimez les femmes qui s'assument, qui...
Oui, je trouve que c'est un élément. On a beaucoup tendance à aller chercher des super-héros, côté un peu viril, un peu. Ouais, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient. Donc là, j'avais envie de dire qu'il n'y a pas que les hommes aussi. Et puis, elles peuvent être capables d'une force soit intérieure, soit aussi extérieure. Je trouve que c'est quand même important aujourd'hui qu'on ait des personnages féminins qui sont. Et puis alors effectivement, moi j'ai une certaine facilité avec les personnages féminins forts, parce que je pense que c'est plus intéressant qu'un homme. J'ai l'impression qu'on a un peu fait beaucoup le tour de la question. Donc là, ce que j'avais envie, c'est d'avoir aussi deux personnes, puisque la mère et sa fille font aussi un peu ce rôle-là, chacune à leur façon, de devenir forte. Une en grandissant, en affrontant la vie, et puis en découvrant un petit peu aussi ce qui se passe dans sa famille. Et puis l'autre, en ayant mis des choses en place avec la difficulté d'y faire face et de faire face aux conséquences, pour pouvoir derrière quand même mener une vie à la fois de femme et puis quand même de réussir un peu la mission de sa vie, on pourrait essayer de qualifier les choses un peu comme ça.
Alors déjà dans votre précédent roman, Le mal c'est bien nécessaire, Anna était une femme forte aussi, qui avait pris pas mal de coups, mais c'était un beau personnage de femme.
Oui, c'est vrai. J'aime bien vraiment écrire autour des femmes. Je trouve que elles ont un peu trop longtemps été un peu oubliées dans les romans. On avait beaucoup d'hommes forts, protecteurs, voilà. Et j'avais envie un peu de montrer que les femmes n'ont pas forcément besoin, que sous certaines formes de fragilité qu'on peut qualifier comme ça dans la société de fragile, donc des émotions, des tendances peut-être peut-être à exprimer un peu plus ce qu'elles ressentent que les hommes. Et en final, c'est des choses qui peuvent servir et qui leur amènent une force que moi je trouve admirable, parce que c'est un petit peu aussi l'idée. Je reste toujours un peu en admiration de la gente féminine qui, tous les jours, doit quand même faire face à des situations, enfin voilà, le harcèlement de rue, des choses comme ça, où je me dis, c'est quand même pas évident. Nous, c'est des choses auxquelles j'ai pris conscience sans doute un peu tardivement, mais sur lesquelles je me dis qu'effectivement, on a encore énormément de travail à faire dans la société pour respecter comme elles devraient l'être, les femmes. Et, à mon niveau, j'amène peut-être une petite idée.
C'est bien. Toute petite goutte est bonne à prendre. Voilà. Hein. Alors, nous parlions d'Ilia Timoshenko tout à l'heure. Alors, comme vous l'avez certainement deviné, le roman parle aussi un peu de la Russie, bien sûr. Donc, la Russie avant l'invasion de l'Ukraine.
Voilà, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, après l'invasion de l'Ukraine, les choses devenaient beaucoup plus compliquées. Et moi, j'avais besoin quand même que les relations internationales soient plus fluides. Oui. Sinon, je pense que les choses auraient été... j'arrivais pas à trouver, en intégrant ce paramètre, surtout qu'il est arrivé, j'étais en train de terminer mon roman. Mm-hmm. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je vais le dater en 2019 pour éviter que je me retrouve à expliquer cet aspect un peu de guerre avec l'Ukraine et puis la rupture des diplomaties, des choses comme ça. Donc ça me posait effectivement un petit problème que j'ai résolu de cette façon. Sinon, j'ai l'impression de manquer de crédibilité. Ça devenait bon, c'est toujours un roman, hein, mais ça devenait un peu trop tiré par les cheveux.
Alors, vous n'êtes pas très tendre avec la Russie, avec le gouvernement russe. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine vous a influencé ou c'était déjà un peu ce sentiment que vous aviez ?
Non, je pense que c'est... alors après, je suis pas... C'est vraiment... On est là dans l'idée, on est sur les cercles fermés autour de Poutine, hein, puisque ça tourne autour de ça. Alors, c'est aussi l'idée d'avoir un pouvoir fort, un homme fort qui autour de lui s'entoure de personnes qui adhèrent à ses propos. Sinon, je vois pas comment on peut accepter un peu l'avis qu'il impose aux autres. Donc c'est un peu ça, un peu, c'est pas forcément le peuple russe en lui-même, mais c'est vraiment aussi une réflexion autour du pouvoir et puis de ce que le pouvoir engendre et des gens qui gravitent autour de ce pouvoir.
Mm-hmm. Alors pourquoi ce titre, le revers ? Sans déflorer trop.
Il y a double titre, oui. À double titre, puisque on tourne autour d'un sujet qui est autour. Il y a un petit côté un peu écolo aussi dans le livre, puisque là je coche toutes les cases. Hein, je pense écologie, féminisme.
Oui, oui, c'est ce que j'avais dit.
Je crois que j'ai bon là. Tant pis. Et donc, du coup, leur vert, c'est l'idée d'essayer d'utiliser les déchets verts pour en faire un moyen de dégager de l'énergie. Donc ça, c'était la première approche. Et puis, leur vert, c'est aussi une pierre. Et donc, du coup, j'ai trouvé rigolo l'idée que les deux protagonistes interviennent autour de ça, un côté écologique et l'autre en offrant la pierre, justement, à son épouse. Donc, voilà, c'est vrai que ça. Et pour rien dire, la chose en plus, c'est je dois tout à mon épouse puisque c'est vraiment elle qui a trouvé le titre et je galérais un peu et elle m'a dit ah, tiens pourquoi pas et l'idée a tout de suite matché. C'était un super soutien de sa part.
Vous pouvez nous lire le petit extrait que vous avez préparé.
Plaisir. Le mystère s'épaissit encore un peu plus. Si Sophie n'est pas allée à l'établissement qui figure dans son dossier, où a-t-elle vécu? Que dois-je déduire de son histoire? Tout semble inventé. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Plus de doute maintenant. Elle m'a caché des éléments importants de sa vie. Je commence à être persuadé que ses problèmes actuels sont liés à son passé. Je ressens une pointe de colère, elle me ment. J'ai l'impression de me retrouver face à une inconnue. Pour si bien dissimuler son histoire, il faut avoir soit beaucoup d'argent, comme moi par exemple, soit être soutenu par un organisme d'État. Une sorte de programme de protection des témoins qui pourrait offrir ce genre d'effacement. Nouvelle vie, mais aussi nouvelle identité. À partir de là, toutes les conjonctures s'ouvrent. C'était une mule pour les cartels de drogue, elle a dénoncé des mafieux qui se servaient d'elle. Mais quelque chose a raté et aujourd'hui son passé revient la hanter. L'hypothèse de son père, réfugié politique, ressurgit à nouveau. Mais dans ses scénarios, elle aurait dû garder profil bas. Et si elle avait conservé un esprit criminel ? Oh, je m'emballe. Mes sentiments me poussent à chercher des thèses rationnelles pour justifier ses cachotteries. Il y a peut-être une explication plus évidente ou plus simple. Simplement, Régis s'est planté dans ses investigations ou encore il m'a manipulé. Mais dans quel but? Toutes les théories se bousculent dans ma tête, et voilà la théorie des extraterrestres. À chaque fois, j'ai l'impression de jouer le rôle de l'objet dont on se sert. Le mensonge est un poison, et la recherche de vérité me conduit à tout imaginer et à tout remettre en question. Cette découverte et ses conséquences me renvoient à une autre crainte. Ces sentiments pour moi sont-ils fins?
Merci François-Xavier. Alors dans votre roman, vous situez une partie de votre roman dans notre bonne Lorraine?
Oui, ça c'est ma petite patte. Ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire déjà dans le précédent.
Oui. J'apprécie énormément le fait de pouvoir mettre mes personnages dans des lieux que je connais, que je fréquente. Par exemple, l'île de Noirmoutier, c'est un lieu où je pars depuis très longtemps en vacances, donc je connais pas mal. Hein, et du coup, ça permet au lecteur, qui vit dans Nancy par exemple, qui est quand même la base de, un peu de mes lecteurs, de se retrouver dans des lieux qu'il connaît en disant bah, « Tiens, elle est passée là, elle a fait ci, elle a fait ça. » Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant que les gens puissent aussi voir un peu ce que c'est aussi la province, lui faire découvrir un petit peu notre belle région. C'est vrai qu'on entend souvent un peu c'est des grandes villes et on a l'impression que les thrillers c'est de toujours être dans New York ou je sais pas quoi ou même Paris, mais que les petites villes sont épargnées. Or, si on fait un peu l'histoire des tueurs en série et compagnie, je pense qu'il y en a beaucoup.
Voilà. Oui.
Donc voilà, dans l'idée c'est vraiment d'écrire dans des lieux que je connais pour pouvoir avoir déjà cette impression de réalité et puis de transmettre plus facilement des émotions en me servant aussi des lieux pour créer un lien avec mes lecteurs et puis leur dire bah tiens ça pourrait être moi là qui est passé là, j'aurais pu la croiser, voilà.
Oui, c'est vrai que vous avez parlé de la rue Stanislas à un moment donné, le meublé et tout, c'est vrai. Alors, j'essayais de visualiser où vous pouvez bien être. Enfin, c'est vrai, c'est marrant.
Oui, c'est toujours fait ça. Là, dans l'envers, c'est moins vrai parce que je fais plusieurs, il y a plusieurs endroits. Mais principalement, dans Le mal, ce bien nécessaire, ça se passe vraiment à Nancy. Et puis, dans mon prochain roman, là, ça va vraiment que être à Nancy. Donc, effectivement, j'aime bien utiliser. Puis, je trouve que la ville est belle et qu'elle fait beaucoup de choses pour la culture. Donc, c'est une façon de lui rendre hommage aussi.
Donc, la transition est toute faite puisque vous avez parlé de votre prochain roman. Je me suis laissé dire qu'elle n'avait qui était presque terminé.
Et voilà, bah, il s'est terminé ce week-end, en fait, tout à fait. Bon, quand on dit terminé, c'est écrit. Hein. Après, il y a tout le travail de correction que moi, je qualifie d'un petit peu plus ingrat, parce qu'effectivement, on a plus besoin de... On sort un peu du côté créatif et on a un peu plus besoin de remettre les choses en respectant les règles, les normes, voilà, en vérifiant un peu l'orthographe, la grammaire, tout ça. Donc là, c'est pas la partie la plus intéressante, mais effectivement, mon prochain roman se déroulera à Nancy. On restera dans un thriller et cette fois je tourne autour du milieu SDF de Nancy puisque c'est un milieu qui est assez riche. J'ai eu l'occasion de lire des écrits autour d'une personne qui avait fait une thèse un peu sur comment se déroule la façon dont s'organisent justement les SDF dans Nancy, et j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'ai piqué un petit peu 2-3 idées et j'ai extrapolé. Oui.
Alors comment vous vient l'inspiration? Donc là ce thème-là de votre prochain roman est venu d'une de vos lectures, mais sinon...
Eh ben voilà, c'est souvent des événements que je rencontre dans la vie. Donc là, par exemple, sur l'Orvert, la relation avec à la parentalité, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, par exemple. Il peut y avoir beaucoup de petites choses que je vais traverser. Généralement, je vais entendre un fait divers, puis je vais me dire, tiens, ça pourrait être sympa, ça, de se dire, tiens, comment je pourrais l'incorporer, comment on pourrait travailler autour de ça. Voilà, ça va être vraiment des idées qui vont venir. En fait, c'est la vie quotidienne qui nous apporte, qui m'apporte de quoi me nourrir pour pouvoir incrémenter dedans des idées. Alors, soit vraiment en creusant cette idée ou en l'utilisant un petit peu comme sous-texte pour le côté enquête, évidemment, derrière, qui perdure. Oui.
Alors, il y a toujours une espèce de bisbille entre polar et thriller. Pour vous, c'est quoi la différence?
Ah, ça, j'ai jamais vraiment compris, mais j'ai l'impression que le polar est plus tourné sur l'enquête, alors que dans le thriller, on a un peu plus d'émotion, un petit peu plus. Ça va souvent peut-être un peu plus loin dans comment on pourrait dire ça, dans le côté un peu réaliste, peut-être un peu d'un crime. Voilà, où on va pas hésiter dans un thriller peut-être à avoir un peu plus de sang, un petit peu plus de sexualité, voilà, alors que peut-être j'imagine un peu plus que le polar, c'est un peu plus l'Agatha Christie où le policier fait son enquête sans qu'il y ait vraiment d'interaction émotionnelle forte avec les personnages sur lesquels il va enquêter, alors que moi c'est un peu tout l'inverse.
Alors Rose, et vous, vos sources d'inspiration, ça vient comme ça aussi? Vous tombez sur un personnage qui vous plaît et...
Souvent, c'est ça. Oui, ça part d'une histoire que je trouve dans un livre ou sur Internet ou dans une conversation. Ça peut partir un peu de partout. Mais c'est surtout, oui, c'est le côté humain, moi, qui m'attire avant tout. Mm-hmm. Et d'essayer de chercher qui était la personne qui a vécu cette histoire, quels étaient ses sentiments en tant qu'homme ou que femme. Parce que je trouve qu'un homme ou une femme reste toujours un être humain, quelle que soit l'époque. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, le côté psychologique, au-delà du contexte historique.
Mmh. Alors, pour nos auditeurs qui auraient envie de vous contacter, vous pouvez nous donner vos références sur les réseaux sociaux, en fait.
Oui, donc je suis sur Facebook à mon nom, Rose Geoffroy Turowski.
Avec un tiré entre Geoffroy, G-E-O-2-F-R-O-Y,
et trait d'union, T-U-R-O-W-S-K-I.
Voilà. Et vous, François-Xavier ?
Eh ben moi, je suis présent sur les réseaux sociaux au niveau de Facebook sous mon nom François-Xavier Simon, ça, pas de souci. Et sinon, sur Instagram, là, j'ai vraiment plus un compte qui est dédié à l'écriture et puis à la promotion, qui s'appelle FX-Roman.
D'accord. Et votre prochain roman, vous allez poursuivre avec l'auto-édition ou vous recherchez ?
J'ai pas encore décidé. J'aimerais bien quand même essayer de retrouver un éditeur parce que ça nous fait ça me fait un gain de temps et comme écrire prend déjà du temps, ma vie personnelle est déjà assez riche et professionnelle aussi. Donc du coup, c'est vrai que même si il y a beaucoup de choses qu'on arrive aujourd'hui à trouver sur Internet, l'encadrement est quand même un peu. Moi j'y trouve quand même un intérêt. Donc peut-être
confort,
que je vais
oui.
faire un petit confort, oui. Et puis, après, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un avis, c'est-à-dire de dire que quelqu'un qui a l'habitude de lire puisse nous dire « roman, j'ai bien aimé, j'aimerais bien l'éditer ». C'est quand même une preuve que quelque part, on a trouvé aussi une maison d'édition qui nous fait confiance. Donc, c'est une sorte de reconnaissance, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, comme on a encore quelques minutes, John Bridge, j'ai appris récemment que vos talents de conteur vous ouvraient de nouvelles portes. Racontez-nous.
Eh bien, oui. À force de dire des nouvelles à RCN, eh bien, j'étais repéré par un éditeur qui s'appelle Scan Numérique, qui est à Paris, et qui fait des podcasts donc de nouvelles. Et il cherchait des voix qui l'intéressaient, des couleurs de voix. Et donc, il était séduit par ma voix. Et donc, il m'a embauché pour lire plusieurs de ses nouvelles. Voilà. Mmh. Pas encore des miennes, pour l'instant. Mais oui, plusieurs des siennes. Et donc, après, les gens, ils peuvent acheter le podcast. Donc, ça s'appelle SKA Numérique.
Comment c'est écrit ?
Alors, SKA, S-K-A,
d'accord.
Numérique. Voilà, numérique.
Mmh.
Voilà. Puis, par ailleurs, ils peuvent... trouver aussi mon recueil de nouvelles.
Ah bah bien sûr, allons-y.
Alors, le recueil de nouvelles, c'est plus proche, là, cette fois-ci, c'est aux éditions Rebelline. Rebelline, R-E-B-E-L-Y-N-E. Qui vient de sortir là, il y a 2 mois. Ça s'appelle Encore un jour de soleil. Et dans lequel il y a 12 nouvelles.
Dont certaines ont été lues à l'antenne.
Dont certaines, la moitié au moins ont été lues à l'antenne, oui. Parce qu'à l'antenne, il faut que ce soit relativement court, mais il y en a quelques-unes qui dépassent le seuil fatidique des 5 pages. Et donc, avec Mona, on a décidé qu'il ne fallait pas que ce soit plus long que ça. Mmh. Donc, celle-ci se trouve à l'intérieur, oui.
D'accord.
Voilà.
Alors, merci à Rose Geoffroy Turowski d'être venue nous présenter son roman « L'ami du silence » publié aux éditions du Menhir. Et merci à François-Xavier Simon, venu nous parler de son roman « L'or vert » publié en auto-édition. Merci à John Buitt qui nous a fait une lecture brillante, de sa nouvelle « Marathon, l'ultime course ». Merci à Pierre qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous retrouverons bientôt. Au revoir à tous et à bientôt. Nous nous quittons sur la chanson de Trio « La planète ».
Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route
forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Hé, toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Hé, toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Hé, toi, qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois?
Hé, toi, qu'est-ce que tu vois?
C'est l'appel des étoiles dans la ville folle, a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier.
Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Dans ton
corps,
ta planète,
qu'est-ce que tu vois?
Ton trésor.